Chapitre 2. Triomphe de Monsieur Baruch. La chevalerie d'Échalot. Il ne s'agissait plus de travailler. L'atelier Cœur d'Acier était célèbre, non seulement par le bon teint et l'élégance de ses produits, mais encore pour son insatiable appétit de flânerie. Ceux qui le composaient avaient deux fois le droit de rester enfants toute leur vie, puisqu'ils appartenaient en même temps à ces deux confréries joyeuses des peintres barbouilleurs et des artistes en foire. La trêve de la besogne était offerte et acceptée, chacun se mettait à son aise. On avait couché la grande échelle qui faisait l'office d'un énorme divan, d'autres avaient apporté des tréteaux, d'autres enfin restaient accroupis commodément dans la poussière. C'était une halte de bohémiens de Paris. Tout le monde savourait le bienfait de ces vacances inespérées. On était là un peu comme au spectacle, et si Milord pelait des pommes aux rougeaudes en disant « Ça fait pitié de voir les occasions tomber à celui qui n'est pas capable d'en profiter avec éclat. Si aussi bien on m'avait demandé la chose, au lieu de s'adresser aux fabricants de croûtes et teinturiers en guenilles, on aurait vu comment je sais charmer une assemblée par l'élocution de ma parole. » Échalot le regardait peler ses pommes et pensait « C'est à ces bagatelles qu'il enfouit ses ressources pécuniaires. Faut-il qu'il voltige sans cesse comme un papillon, et ce défaut-là lui coupe son sentiment paternel. » Monsieur Baruch, cependant, n'était pas fâché d'être en lumière. Il gardait cet air impassible qui va si bien aux petits hommes grisonnants, pourvus d'une voix de basse taille. Si Milord ici était injuste, comme tous les envieux, Monsieur Baruch ne resta point au-dessous du rôle brillant qui lui était confié par sa bonne chance. Il raconta couramment et dans tous ses détails l'histoire du premier meurtre, le meurtre accompli au numéro 6 de la rue de l'Oratoire aux Champs-Élysées. Son récit n'aurait point satisfait nos lecteurs qui connaissent d'avance l'envers de cette sanglante comédie, mais il était positivement exact au point de vue de ce que les journaux avaient porté à la connaissance du public. Dans la science profonde de leur combinaison, les habits noirs écrivaient l'histoire en même temps qu'ils la faisaient. Ils ne se contentaient pas de jouer leur drame, ils se chargeaient en outre d'en rendre compte au public. De ce récit, composé sur des apparences habilement préparées, et d'après les pièces d'une instruction dont, seul au monde, le malheureux Remy Dax aurait pu reconnaître le côté mensonger, une brutale évidence se dégageait, sautant aux yeux de chacun. Quand M. Baruch termina en mentionnant l'ordonnance de non-lieu délivrée par le feu juge et la mise en liberté de Maurice Pagès, il y eut des murmures dans l'auditoire. « C'est trop bête aussi, » dit Mademoiselle Colombe, en cassant un peu les reins de sa petite sœur. Celle-ci demanda « À qui donnera-t-on les diamants qui étaient dans la canne à pommes d'ivoire ?» Madame Samaillou restait comme absorbée, elle ne dit rien, sinon ceci « Il a été libre un instant et je n'étais pas là. » « Les diamants !» prononça sentencieusement Mademoiselle Colombe en réponse à la question de sa petite sœur. « C'est toujours confisqué par le gouvernement pour récompenser les filles des généraux et les dames des procureurs du roi. » Monsieur Baruch but un verre de vin. Tout le monde était content de lui, excepté pourtant Similor qui cabalait dans son coin, disant « Faut que la patronne ait son idée pour faire mine d'ignorer des choses comme ça. Quoi donc, Saladin, mon petit ?» On aurait spécifié les détails tout aussi bien que le color d'enseigne. « Continuez, monsieur Baruch, » dit madame Samaillou, avec sa tranquillité factice sous laquelle perçait une navrante lassitude. « Alors, maman Léo, » répliqua le petit homme, « vous voilà bien fixé sur le premier meurtre, pas vrai ?»« Oui, je suis fixé. » « Et vous comprenez pourquoi tout le monde devine que le nom de Maurice P., imprimé dans les journaux qui racontent le second assassinat, veut dire Maurice Pagès ?»« Oui, je le comprends. »« Va bien. Quant à la demoiselle, c'est une autre paire de manches. Valentine de V., connaît pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça se saura plus tard. » Donc le juge Remy Dax avait sauvé la vie, ou tout au moins la liberté, de votre Maurice Pagès. Fix, interrompit Gondrequin militaire. Ménagez vos expressions, Rudeau-Poil. Quand même, il ne s'agirait pas d'une cliente honorable et qui donne du comptant. Je vous dirai encore respect à son sexe. Je ne crois pas avoir besoin de leçons pour ce qui regarde les convenances, repartit Monsieur Baruc avec fierté. Et il y a beau temps que Madame Veuve Samaillou connaît les sentiments que je nourris en sa faveur. Je voudrais dire tout uniment ceci. Quand il y a rivalité d'amour entre deux hommes, qu'est-ce que c'est que leur reconnaissance? Ce n'est rien. Vous allez le voir. « Ah !» fit Mademoiselle Colombe avec un grand soupir. « Les hommes, celui qui m'a laissé ma petite sœur sur les bras, avait pourtant des mille et des cents. » Maurice Paget, se poursuivit M. Baruc, possédait peut-être autrefois les qualités de cœur qui ont pu motiver l'intérêt que lui témoigne la patronne, mais rien n'arrête le débordement des passions. Quand il fut sorti de la conciergerie, il continua de se fréquenter avec la demoiselle Valentine de V, qui est une pas grand-chose, quoique appartenant à la plus haute société. Il faut vous dire, et c'est à maman Léo que je parle, car tous les autres savent cela sur le bout des doigts, que le mariage de la demoiselle avec le juge était une chose arrêtée. On avait signé le contrat et publié les bans. En passant, une observation qui a ses conséquences. On voit un peu plus loin que le bout de son nez, c'est sûr. Je suis, moi, de ceux qui pensent qu'il y avait là un marché et que ce mariage était le prix de la faiblesse du juge à l'endroit du Maurice, pincé en flagrant. La demoiselle avait dû dire quelque chose comme cela, « Sauvez celui qui m'est cher et je serai votre femme ». Ce n'est pas beau, et en plus ça a l'air bête. Ils sont si drôles dans le beau monde. Voilà un endroit où ils s'en passent de cruels, qui ne viennent pas souvent à la cour d'assises, en rapport à la richesse et à la faveur des fautifs. Ceux qui connaissent le dessous de leur lambris doré disent que ça fait frémir pour l'immoralité de toutes les turpitudes qu'ils contiennent. Et quant à la bêtise, écoutez donc, depuis le commencement jusqu'à la fin, ce juge-là, malgré sa réputation de savant, s'est toujours conduit comme celui qui n'a pas inventé la poudre. Voilà donc qui est très bien. Les préparatifs de la noce allaient leur train, dans le bel hôtel des Champs-Élysées, chez une madame d'eau, comme le marquent les feuilles publiques, qui cache encore la fin de ce nom-là. S'il s'agissait de moi ou de Gondrequin militaire, on nous y coucherait en toutes lettres, c'est bien sûr. Mais voilà une assez cocasse de chose. Le bel hôtel est situé tout contre la maison du numéro 6, où le premier meurtre avait eu lieu. Y a-t-il là-dedans un fait exprès? Cherche, il faudrait avoir du temps à soi, comme un rentier, pour deviner tant de rébus. L'important, c'est que, après l'ordonnance de non-lieu, Maurice Paget avait loué un petit logement garni, dans la rue d'Anjou-Saint-Honoré, sur le derrière, dans une situation bien commode, pour faire ce qu'on veut, sans être gêné par les voisins. C'était là que Valentine de V venait causer avec lui. La veille même du mariage, M. Remidax reçut une lettre de Maurice Paget qui lui donnait son adresse, comme qui dirait un défi. Il se trouva qu'au moment où les amis et la famille étaient rassemblés à l'hôtel des Champs-Élysées pour l'exposition de la corbeille, comme ça se fait dans la noblesse plus orgueilleuse qu'un troupeau de dindons, Mademoiselle Valentine de V manqua justement à l'appel. Remidax alla jusque dans sa chambre pour la chercher, et là, une servante lui dit qu'elle était partie en voiture, toute pâle et toute défaite. Pour aller où? La fille de chambre se fit un petit peu prier, puis elle donna l'adresse du logement garni de la rue d'Anjou. Était-ce un guet-apens, oui ou non? Du reste, la servante a été en prison. Ce qui se passa dans le logement garni, dame, je n'y étais pas pour le voir, mais la justice fut avertie. « Par qui ?» demanda ici Madame Samaillou, dont les yeux se relevèrent. « Oui, par qui ?» répéta Échalot, qui, d'ordinaire, n'avait point la hardiesse de se mêler ainsi à l'entretien. « Qu'est-ce que ça fait ? Par qui ?» répliqua Monsieur Baruc. Les yeux de la dompteuse se baissèrent, et au lieu d'insister, elle dit « Allez toujours !» C'est presque fini, vous le devinez bien. La justice trouva le juge d'instruction empoisonné comme un rat dans une cave où on a jeté des boulettes. C'est tout ? Demanda la veuve. C'est tout, et je crois que c'est assez comme ça. Il n'y avait pas à nier le flagrant, cette fois-ci, puisque le jeune homme et sa demoiselle étaient enfermés censément avec le cadavre. Dans l'auditoire, on se demandait « qu'est-ce que la patronne veut donc de plus ?» Et Similor ajouta entre haut et bas « quand les femmes qui ont dépassé l'automne de l'existence en tiennent pour un jeune premier, ça fait frémir. » Échalot se glissa derrière les groupes et vint lui mettre la main sur l'épaule. « Toi, Amédée, dit-il, tu vas te taire. » « Qu'est-ce que c'est ?» commença fièrement le pharaon en haillons. « Tu vas te taire !» répéta Échalot, qui ne se ressemblait plus à lui-même et dont l'humble regard avait pris une expression d'autorité. Le petit se mourait de besoin. C'est elle qui lui a remplacé la providence. Tant pis pour toi si tu n'as pas de cœur. Un mot de plus et on s'aligne. » Similor haussa les épaules, mais il se tut. En ce moment, Madame Samayou disait, en se parlant à elle-même, plutôt que pour poser une question, qu'un homme soit frappé, ça se comprend, mais pour empoisonner quelqu'un... « Il faut qu'il boive !» s'écria Gondrequin. « Rafla, droit alignement ! Je n'en avais jamais tant su à l'égard de cette aventure, mais le bon sens le dit, pour empoisonner quelqu'un, il faut que ce quelqu'un-là boive. » Et le juge, dit Échalot, qui revenait de son expédition, n'était pas venu là pour se rafraîchir, peut-être. Il y avait de la reconnaissance dans le regard mouillé que Madame Samayou tourna vers lui. Échalot recula sous ce regard et appuya sa main contre son cœur. Dans l'auditoire, quelques voix dirent « Le fait est que le juge et les deux amoureux n'étaient pas vis-à-vis les uns des autres dans la position où l'on se dit entre amis « Voulez-vous prendre quelque chose ?» C'est louche. « Avec ça, s'écria M. Baruc, qu'un homme qui trouve sa fiancée dans une pareille situation n'est pas dans le cas de tomber évanoui les quatre fers en l'air, s'il a de la délicatesse. « Ça c'est vrai, dit Gondrequin, mais après ?» Après, avec ça que quand ils sont deux autour de quelqu'un qui ne peut pas se défendre, c'est bien malin de lui ouvrir le bec et de lui entonner ce qu'on veut. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas toujours des manigances qu'on ne comprend pas dans les causes célèbres? C'est ce qui en fait le charme. Sans ça, il n'y aurait pas besoin d'audience. Parbleu, approuva-t-on à la ronde. Gondrequin lui-même parut ébranlé par ce raisonnement si clair. « À la fin des fins, acheva M. Baruc, j'ai été interrogé, j'ai répondu. Tout ça m'est bien égal à moi. Je ne m'occupe pas du comment ni du pourquoi. Je dis, pour être empoisonné, il faut boire, donc il a bu, puisqu'il est mort empoisonné. Faut-il reprendre l'ouvrage ?» Un instant, la dompteuse fixa sur lui ses yeux où il y avait de l'égarement. Puis, au lieu de répondre, elle appuya ses deux coudes sur la table et cacha sa tête entre ses mains. Nous n'avons jamais nourri l'espoir de reculer les frontières connues de la poésie en abordant le portrait de Madame Veuve Samayou, première dompteuse française et étrangère, mais nous n'avons pas eu non plus la crainte, en faisant ce portrait ressemblant, d'exclure toute poésie. La poésie est partout, l'élément populaire en regorge, et on la retrouve encore, réduite, il est vrai, à sa plus humble expression, jusque dans les bas-fonds fréquentés par ces vivantes chinoiseries qui ne sont plus le peuple et qui servent de bouffons au peuple. Le peuple entretient des bouffons en sa qualité de dernier roi. Il n'y a plus guère que lui pour mettre la main à la poche quand Triboulet ou sa femelle se ruine en frais de ladzi et de cabriole. Mais le fou du prince avait quelque chose de terrible en ses gaietés, et nous ne pouvons plus le voir qu'à travers la terrible ironie de Victor Hugo. C'était un esclave qui riait aux larmes et dont les larmes étaient rouges. Les fous du peuple sont libres, plus que vous et moi, libres au milieu de nos contraintes comme les sauvages de la forêt américaine, libres au milieu de nos décences hypocrites et de nos puériles convenances comme les oiseaux effrontés du ciel. Ils n'ont point de gêne pour gâter leur pauvre plaisir, et quand ils rient, c'est la gorge déployée. Ils n'ont point d'étiquette, quoiqu'ils aient beaucoup de fierté. Leur orgueil, naïf entre tous les orgueils, se contente d'un mot et d'une apparence. Ils sont artistes, puisqu'ils se croient artistes, et cela suffit pour transformer en joyeux carnaval les 12 mois de leur perpétuel carême. Ils vivent et meurent enfants, ces amuseurs naïfs de la naïveté populaire. À cause de cela, Dieu, qui aime les enfants, met de la joie jusque dans leur misère. » La dompteuse s'était affaissée sur la table de sapin dans une pose qui manquait un peu de noblesse. Elle tenait sa tête à deux mains et respirait fortement comme ceux qui veulent s'empêcher de pleurer. Autour d'elle, saltimbanques et barbouilleurs restèrent un instant silencieux. Il y avait une nuance de respect dans l'immobilité qu'ils gardaient. Au bout d'une minute, cependant, M. Baruch fit un signe qui était un ordre, et les peintres reprirent leur échelle. En même temps, Mademoiselle Colombe emmena sa petite sœur dans son coin pour lui retourner les jarrets sans œuvre derrière, et Similor offrit la main aux deux rougeaudes en leur disant « Amour, nous allons étudier la danse des salons pour voir si votre étoile vous conduisait par hasard dans ceux du faubourg Saint-Germain. » Échalot revint près de son lion perclus et donna le biberon à Saladin. Il avait l'air tout rêveur. Ce fut avec une émotion profonde qu'il dit à l'enfant, comme si ce dernier eût pu le comprendre. « Ça doit te servir de leçon et d'exemple, ma petite vieille. Tout un chacun de nous n'est pas ici-bas sur la terre pour grignoter des alouettes toutes rôties. Faut souffrir, vois-tu, vilain môme, et puisque les personnes établies dans la position sociale de Madame Samaillou peuvent avoir de si grandes contrariétés, qu'est-ce que ce sera donc de nous qui ne possédons aucune économie ?» En parlant, il fixait son regard tendre et doux sur la dompteuse, qui ne bougeait pas, mais dont la respiration devenait à la fois plus régulière et plus bruyante. Les personnes un peu trop chargées d'embonpoint ont souvent la faculté de ronfler tout éveillée. Madame Samaillou ronflait, et le troupeau des vieux espiègles commençait à rire en l'écoutant. On travaillait encore un peu, mais pour la forme seulement. « La patronne avait entonné le petit blanc dès le matin, » dit Gondrequin militaire en donnant quelques coups de balai savant au rideau. « Elle avait déjà son filleul quand nous sommes entrés, et de pleurnicher, ça vous achève. Droite, gauche, pas dangereux. Si on plantait un soleil au milieu du rideau, hein, monsieur Baruch ?» Monsieur Baruch répondit « Ça veut tout savoir et c'est incapable de supporter l'énoncé des événements. Oh, pour une brave personne, maman Léo en mérite le titre, mais elle pourrait être la mère de Maurice. C'est drôle que la passion a survécu chez elle à la maturité. » Il ajouta en bâillant « Le voilà, ce poignard. Mettez le soleil si vous voulez, militaire, et même la lune avec les étoiles. Je n'ai pas bonne idée de l'entreprise, maintenant. Cette femme-là a du cœur pour trois. Elle est capable d'abandonner les soins de son état, rapport au désespoir qu'elle éprouve. » La porte extérieure s'entrebâilla doucement pour donner passage aux jongleurs indiens et à l'Hercule du Nord qui se glissaient dehors sans rien dire. Dans la rue Beaubourg, dit Similor à ses élèves, il y a un endroit où l'on sert le noir avec le petit verre pour 3 sous. Si vous aviez seulement à vous deux 50 centimes, on pourrait se procurer une soirée agréable. » La porte s'ouvrit encore. Jupiter, dit Fleur de Lys, et le rapin Peluche disparurent tout doucement. Monsieur Baruch mit par-dessus sa blouse un vieux paletot mastique qu'il avait acheté d'occasion et dont il releva le collet avec soin. « Je vais revenir, » dit-il négligemment. « Si la patronne me demande, vous direz que j'ai couru acheter du tabac. » Un Gondrequin militaire prit aussitôt son album. « J'ai une course à faire pour la maison, » grommela-t-il en forme d'explication. « Poussez la besogne, mais silence dans les rangs, ne réveillez pas la bonne Madame Samaillou. » 5 minutes après, le dernier barbouilleur s'en allait, bras dessus-dessous avec Mademoiselle Colombe, qui donnait la main à sa petite sœur. Échalot restait seul entre son lion assoupi et le jeune Saladin, dont il ne tourmentait plus la tête de singe par respect pour le sommeil de la dompteuse. Échalot n'était pas oisif, cependant. Il avait retiré de dessous la paille où sommeillait le lion un objet de forme singulière auquel nous serions fort embarrassés de donner un nom. C'était en caoutchouc et cela ressemblait un peu à certains produits qu'on voit à la devanture des bandagistes. Il y avait 2 pelotes, larges comme la moitié de la main, et reliées entre elles par une manière de tuyau flexible de 12 à 15 pouces de longueur. Chacune des pelotes était en outre pourvue de bandelettes en peau très fine, et le tout était revêtu d'une couche de peinture dont le ton neutre essayait d'imiter la carnation du corps humain. Échalot se mit à regarder avec complaisance ce mystérieux appareil, et puis, après avoir lancé un coup d'œil à la patronne, qui semblait dormir toujours, il enleva lestement sa veste, son gilet, et même la chose, malaisée à définir, qui lui servait de chemise. Pendant cette opération, il disait tendrement à Saladin, et qui fixait sur lui ses petits yeux chassieux, « Vois-tu, grenouille, tu deviendras un mâle comme moi avec le temps. Ce que tu es à même d'examiner en moi s'appelle un torse dans les ateliers, comme quoi j'ai posé pour le mien chez les plus grands artistes, de même que Similor, ton père putatif et naturel, posait pour les jambes. Nous aurions fait à nous deux un Apollon du Belvédère, lui par le bas, moi par le haut. » Quoi qu'il en eût fallu un troisième pour avoir la figure, n'étant ni l'un ni l'autre, suffisamment avantagé sous ce rapport. Le jeune Saladin, ayant voulu ouvrir la bouche pour lancer un de ces cris lamentables qui d'ordinaire exprimait son opinion, Échalot le retourna et lui mit la tête dans la paille. Il n'avait pas l'heureuse enfance d'un prince, ce Saladin, mais ses rudes commencements font quelquefois les hommes forts, et, comme sans doute on l'avait dressé à faire le mort quand il avait la figure enfouie, il ne bougea plus. Nous sommes bien certains de ne blesser personne ni aucune pudeur malencontreuse en entrant dans quelques détails techniques concernant une invention moins grande que celle de la vapeur, mais qui peut avoir néanmoins son importance. Elle était due à notre ami, si modeste et si bon, Échalot, ancien apprenti pharmacien. Il appliqua sur son nombril une des pelotes en caoutchouc et l'y fixa à l'aide des bandelettes munies de petites agrafes qui la maintenaient derrière son dos. C'était en vérité très bien fait. Les bandelettes se confondaient presque avec la peau des hanches et la pelote elle-même, n'eût été le tuyau qu'elle soutenait, aurait ressemblé à une tumeur ordinaire. Échalot prit un petit morceau de miroir cassé et le promena tout autour de sa ceinture pour voir si tout allait bien comme il faut. « C'est joli, l'éducation, se disait-il. Le môme ne demande pas son reste, quoi qu'il ait le caractère irascible. Dès qu'il aura seulement 4 ou 5 ans de plus, je lui fabriquerai une machine comme ça, en rapport avec son âge. » Et on trouvera bien une autre petite bête analogue pour les appareiller ensemble. C'est égal, la couleur n'y est pas encore tout à fait. Il faudrait y coller un peu de cheveux par-ci par-là pour imiter parfaitement l'œuvre du Créateur. Mais quand ça va être arrivé à son point, je dis que Madame Samayou ne sera pas raisonnable si elle n'est pas contente. Ici, sa voix s'adoucit jusqu'au murmure et... Il glissa un regard attendri vers Madame Samayou, qui ronflait bruyamment. « Ah, voilà les mystères du cœur humain, » pensa-t-il tout haut. « Quand Saladin a bien pleuré, il s'endort, et c'est de même chez les dames. Il n'y a pas d'âge ni de sexe qui tienne. Il faut que les enfants d'Adam se fassent du chagrin à soi-même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. » Y aurait-il un poisson dans l'eau plus heureux que la patronne si elle n'avait pas l'inconvénient de cette passion-là? Il s'approcha de la table sur la pointe du pied. Il tenait d'une main son invention et de l'autre un vieux pinceau déplumé, abandonné au rebut par un de ses apprentis de l'atelier cœur d'acier. Mais ces objets ne faisaient qu'ajouter à l'expressive émotion de son geste pendant qu'il contemplait avec une admiration poussée jusqu'à la ferveur le dos de Madame Samayou. Celle-ci avait laissé tomber une de ses mains. Comme sa tête restait appuyée sur l'autre main, on voyait le profil perdu de sa face rubiconte et chargée d'embonpoint. Ses cheveux, très abondants mais qui grisonnaient par places, s'échappaient de son madras aux nuances violentes qui n'étaient pas de la plus entière fraîcheur. Bien des gens vous diraient qu'à 40 ans passés, un jeune homme, pour employer les expressions d'Échalot quand il parlait de lui-même, ne peut plus avoir les sentiments d'un page. D'autres pourraient penser que Léocadie Samayou ne réalisait pas exactement l'idée qu'on se fait d'une châtelaine. Et pourtant, je ne vois rien, en dehors des comparaisons chevaleresques, qui puisse donner une idée du culte respectueux mais ardent payée par ce pauvre diable à cette grosse bonne femme. Malgré mon habitude de tout dire, j'hésiterais à exprimer là-dessus mon opinion si elle n'était aussi sincère que mélancolique. La voici. En notre siècle, si avisé, peut-être est-il nécessaire de plonger à ses profondeurs pour trouver un dernier vestige de ces niaiseries sublimes qu'on appelait les choses chevaleresques. Tout ce qui constitue la chevalerie était chez ce pharmacien de la table ronde. La vaillance, le dévouement, la vénération, et même cette petite pointe de sensualité naïve qui allait si bien aux preux compagnons de Charlemagne. Échalot resta une bonne minute en extase devant, ou plutôt derrière, la dompteuse, dont la vaste corpulence affectait une pose pleine d'abandon. Les petits yeux d'Échalot brillaient extraordinairement, exprimant une sorte de volupté austère. Ses deux mains, occupées par les objets que vous savez, se rapprochaient involontairement, comme pour se joindre dans l'attitude de la prière. « Léocadie, murmura-t-il enfin, dans un tremblant soupir. Puis il ajouta, laissant jaillir l'éloquence de son cœur, « Ah, sans qu'il y a la distance sociale qui nous sépare, je lui aurais consacré tous les parfums de mon âme, dont j'ai gardé jusqu'alors la virginité. » Si Milord a contenté tous ses caprices, mais moi, n'ayant connu que le malheur, à cause que je me suis toujours sacrifié à l'amitié, jamais je n'ai tombé dans la frivolité du libertinage en partie fine. » Il fit un pas de plus. Son regard, glissant entre la carmagnole et le madras, caressa chastement le cou robuste de la dompteuse. « C'est gras, murmura-t-il, c'est bien portant. Ça ne se prive de rien, buvant sa bouteille à chaque repas, sans jamais se faire du mal, ni tomber dans les excès, que je n'approuve pas chez les dames. Ça n'a pas d'autre faiblesse que celle de la sensibilité, qui fait que tous les biens de la vie, généralement à sa portée, elle s'en fiche pas mal, tout entière, à une seule tocade. » Ah, c'est vrai que ce serait un délice de déjeuner tous les jours, dîner et souper, en tête à tête avec la divinité de mes rêves, et tout à ma discrétion. Mais ça me plairait encore plus de souffrir avec elle, de me précipiter dans le torrent pour la sauver, ou au sein des flammes dévorantes. Les autres l'ont abandonnée par l'égoïsme naturel au genre humain, mais moi je reste, je fais serment de ne la quitter ni de jour ni de nuit, et si ça lui est agréable, je répandrai pour elle jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Voilà ce que c'est, dit madame Samaillou sans se retourner et d'un accent assez paisible, le monde est fait comme cela. Ceux qu'on les aime avec idolâtrie ne vous regardent seulement pas, et ceux qu'on n'y fait pas attention sont à genoux devant vous comme si on était un sanctuaire. » Les jambes d'Échalot flageolaient sous lui. « Patronne, balbutia-t-il, je croyais que vous dormiez. C'est pourquoi je ne me gênais pas pour dire des bêtises, mais il n'y a pas d'affront, parce que je sais ce que je suis et ce que vous êtes. » La dompteuse se redressa tout à coup en secouant sa crinière crépue. « Ce que je suis » répliqua-t-elle, et son poing crispé heurta la table violemment. « Ah, c'est vrai qu'il y a encore un pauvre aide en dessous de moi, puisque tu me regardes d'en bas, toi, bonne créature. Mais sais-tu, si on leur disait qu'il y a quelqu'un d'ici-bas pour me respecter, ils poufferaient de rire. « Qui donc se permettrait ça ?» demanda vivement Échalot. « Tout le monde, à commencer par le dernier des derniers. Mets-toi là !» Elle lui montrait le siège occupé naguère par Gondrequin. Échalot fit un pas, ne voulant point désobéir, mais il hésitait en face d'un si grand honneur. « Mets-toi là !» répéta madame Samaillou. « Je ne dormais pas, je n'ai pas dormi une seule minute. Je ne dormirai de longtemps. Verse à boire !» Pour prendre la bouteille, Échalot déposa sur la table les objets qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda la dompteuse. Ses yeux se gonflaient encore de larmes, mais elle était, comme les enfants, distraite à la moindre curiosité. Échalot rougit, répondit. Ça peut être encore perfectionné. Je n'aurais pas voulu vous montrer la chose incomplète. C'était une surprise. J'avais eu l'idée de monter en trompe-l'œil pour me réunir avec Similor, tous deux nus jusqu'à la ceinture, et représentant le phénomène de deux jumeaux siamois liés ensemble par un jeu de la nature. Léocadie prit à la main le système et l'examina d'un air connaisseur. Hein, ce n'est pas déjà si maladroit, dit-elle. On en avale de plus grosses que ça en foire. Est-ce que c'est toi l'inventeur? Les yeux d'Échalot se mouillèrent, tant il se sentit fier et heureux. Je n'ai pas l'intelligence d'Amédée, murmura-t-il, mais avec l'espoir de vous être agréable, il me semble que rien ne me résisterait. Léocadie rejeta la mécanique et but une gorgée de vin, après quoi elle repoussa le verre. « Je suis malade, murmura-t-elle, ça me paraît comme du fiel. » Puis elle demanda, « Connais-tu bien ton Similor ?»« Amédée !» s'écria Échalot, « lui et moi, c'est des frères. »« Tu parais compter sur son adresse ?»« Il n'y a pas plus fin que lui. » »« Serait-il dévoué à l'occasion ?» Échalot ouvrit la bouche pour répondre affirmativement, mais la parole ne vint pas et il baissa la tête. « C'est qu'il me faudrait des hommes vraiment dévoués, » murmura la dompteuse. « Le fond n'est pas mauvais, » répliqua Échalot, « mais il se laisse entraîner par son libertinage, toujours voltigeant de la brune à la blonde, dont il sait se faufiler partout à cause de son élégance et de son toupet. Mais moi, c'est différent. J'ai mis un frein à mes passions pour m'occuper de Saladin et lui préparer sa carrière. » Mon abnégation pour vous après naissance dans ce que vous avez été utile à Saladin. Et alors ça a grandi petit à petit, jusqu'à la chose que je vous sacrifierais avec plaisir, mon existence et mon honneur lui-même, et se faire hacher pour vous comme chair à pâté. » Madame Samaillou lui tendit sa rude main qu'il porta pieusement à ses lèvres. « Merci, dit-elle. Vous ne payez pas de mine, c'est vrai, mais j'ai bonne idée de vous. Je me défie des pharaons ambitieux et langues dorées, car c'est encore dans les rangs du petit peuple qu'on trouve le plus de cœur sincère. Seulement il faut choisir, étant exposé à y rencontrer encore pas mal de racailles. » Elle s'interrompit pour ajouter d'un air pensif. Non, je ne dormais pas. Je les ai bien vus s'en aller à la queue-leu-leu. Et ça fait pitié quand on considère l'espèce humaine. Mais ça m'était bien égal. Ma pauvre tête travaille comme une folle, cherchant un moyen de braver les menaces du sort. Je mettrai ma main au feu jusqu'au coude que ces deux enfants-là ne sont pas coupables. « Ça me paraît aussi de même, dit Échalot résolument, puisque c'est votre idée. J'ai été bien souvent me chauffer à la cour d'assises, et je ne suis pas étranger à la façon dont ça se joue. Il y a une bonne chose que l'avocat pourra beurrer dessus toute une tartine, c'est sûr, et le procureur du roi sera bien fin s'il peut prouver que les deux amoureux ont fait boire le juge malgré lui. » « N'est-ce pas ? » s'écria vivement Madame Samaillou. « Ce n'est pas quand on vient surprendre sa fiancée avec un rival qu'on accepte un verre de vin de bonne amitié. Si j'étais juré, mais voilà, il y a un coup monté, ça saute aux yeux. Par qui, je n'en sais rien. Et quand on pense à ce qui peut passer dans l'idée des avocats, moi d'abord, quand il s'agit des tribunaux, je dis que c'est la misère. Et si on venait m'arrêter pour avoir assassiné Louis-Philippe, qui n'est pas mort, ou Napoléon, qui a péri à Sainte-Hélène, je ne suis pas sûr que j'en réchapperais. » Échalot secoua la tête avec gravité et dit, « C'est vrai que la justice humaine est fragile dans son aveuglement, mais au-dessus de la faiblesse des hommes, il y a l'œil de la Providence. » Madame Samaillou le regarda, il baissa aussitôt les yeux avec modestie. « Toi, dit-elle, retrouvant une nuance de gaieté, car la présence et la sympathie de ce pauvre être lui faisaient vraiment du bien, tu es une bonne âme, mais, vois-tu, faudrait l'aider, la Providence, et que pouvons-nous à nous deux? J'ai beau chercher, ma cervelle est vide, et quand je songe qu'ils sont tous deux en prison, dans des cachots séparés, et ne pouvant pas même mélanger leurs sanglots... » Elle essuya une larme qui tremblait à sa paupière. Échalot fit de même avec le pan de sa redingote. C'est dans ces moments-là, reprit la dompteuse en laissant tomber ses deux bras, qu'on voudrait avoir reçu une éducation soignée et posséder des connaissances intimes dans la haute pour être à même de soulager l'infortune. Si seulement j'étais riche.
Vous avez dû pelotonner un joli bout de galon, fit observer Échalot d'un air flatteur.
Madame Saint-Mailloux haussa les épaules avec un soudain emportement.
Je parie que mon Saint-Frusquin va y passer jusqu'au dernier sou, s'écria-t-elle.
Hein, les mêmes démanges de jeter l'argent par les fenêtres, et si la dépense servait à quelque chose, crois-tu que je regretterais mes écus?
Bien sûr que non, patronne.
Je donnerai tout et je ferai des dettes par-dessus le marché. Mais comment s'y prendre? Par où commencer?
Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, fit-elle dans son découragement plein de fiel.
J'ai idée de tout casser, de tout briser.
Mon établissement, je m'en moque. Ma réputation, je n'en veux plus.
J'avais entamé une grande entreprise, ce qui devait rapporter des 1000 et des 100.
J'avais payé les yeux de la tête à la ville pour le local.
Jamais on n'aurait vu en foire un théâtre aussi reluisant que le mien.
Ben, c'est fini de rire. Je vais renvoyer mes artistes en leur donnant ce qu'ils voudront d'indemnité. Je vais renvoyer les peintres, les colleurs, les menuisiers, toute la clique. Je vais vendre mes animaux. Et pour un peu, je me jetterai par-dessus le parapet du pont. Voilà.
Échalot était consterné. Il essayait de maladroites consolations qui n'étaient pas écoutées. Madame Saint-Mailloux s'était levée et parcourait la baraque à grands pas. Elle ressemblait à une lionne dans sa cage, et certes, à l'heure qu'il était, deux hommes robustes auraient fait preuve de témérité en l'attaquant.
« Ah, s'il ne s'agissait que de tripoter un tigre, s'écria-t-elle, ou que de faire une omelette avec une demi-douzaine de militaires qu'on prendrait par la peau du cou et qu'on tortillerait comme la paille à rempailler les chaises, oh, ça me soulagerait crânement d'abîmer quelqu'un, mais là, de fond en comble. » En serait-il moins malheureux, là-bas, entre les quatre murailles de leur prison?
Mon Dieu Seigneur, les pauvres enfants, les pauvres enfants!
Mais donne-moi donc une idée, toi, fit-elle en s'arrêtant devant Échalot, qu'elle secoua rudement.
Fouillez-moi plutôt, patronne, murmura l'ancien pharmacien, dont les yeux étaient pleins de larmes.
Si on pouvait pénétrer dans leur cachot, vous et moi, et rester à leur place pendant qu'ils s'évaderaient.
« Est-ce qu'on pourrait me prendre pour elle ?» demanda Madame Saint-Mailloux, qui eut presque un sourire.
« Et lui, il est si beau !»«
Et moi, s'il est, pas vrai ?» acheva Échalot.
« Ça ne fait rien, patronne. Je suis tout de même bien content de vous avoir un peu régayé. »
« Oui, répliqua la bonne femme, soudaine comme les enfants, et dont toute la colère était tombée pour faire place à une rêveuse mélancolie.
« Tu m'as fait rire, et ce n'était pas facile, car j'en ai gros sur le cœur.
As-tu entendu tout à l'heure que le gondrequin militaire m'appelait Madame Putifard ?»«
Voulez-vous que je m'aligne avec lui ?» s'écria Échalot.
« Pourquoi faire? Je ne suis pas bégueule, mon vieux. Mon opinion, c'est liberté libertas pour une femme veuve dans ma situation qui peut se mettre au-dessus des bavardages. Et pourtant, je suis bien changé depuis ce soir où je le vis pour la dernière fois. J'entends mon chéri de Maurice et j'avais fait dessein de marcher droit parce qu'il y avait en moi une idée qui me donnait du respect pour moi-même. » Je me regardais un peu comme sa mère.
C'est drôle, pas vrai, de jalousie. Il n'en était plus question. J'en étais à me demander si vraiment j'avais pu espérer autrefois qu'il hésiterait entre une grosse maman comme moi et Fleurette, ce bouton de rose.
Il y a des gens, soupira Échalot, qui préfèrent mieux la rose épanouie à n'importe quel bouton.
« Tais-toi, pas de bêtises, on se connaît.
Et ce qui prouve bien que ma folie est guérie, c'est qu'il ne me viendrait pas à l'esprit désormais de penser à l'un sans penser à l'autre.
Ah, mais non, je ne veux pas le sauver tout seul, je veux la sauver avec lui. C'est mes deux enfants, quoi, mes deux amours bien-aimés. Il me les faut tous les deux, il me les faut heureux. Et le restant de mon espoir est de vieillir ici, dans quelque coin, d'où je pourrais regarder leur bonheur.
« Êtes-vous assez bonne ?» murmura Échalot, dont l'attendrissement ne faisait pas trêve un seul instant.
« Pour la bonté, je ne dis pas, » répliqua Madame Saint-Mailloux avec tristesse, « mais ça ne m'avance pas beaucoup pour mes affaires, et j'ai beau me creuser le cerveau, je ne trouve aucun moyen de venir à leur secours. »
Cherchons, patronne. J'ai tant cherché, fit la dompteuse, qui se laissa retomber sur son siège. Quand tu m'as parlé tout à l'heure, j'en étais à rêvasser un tas de fariboles, comme on fait quand on est au bout du rouleau. Je songeais à ces hasards qui arrivent toujours à point dans les contes de fées. Je me disais, il n'y a donc plus de ces bons génies qui exaucaient les souhaits des malheureux. Dame, fit Échalot, croyant qu'on l'interrogeait. Qui descendait par le tuyau de la cheminée, continua maman Samaillou, sans prendre garde à l'interruption, ou bien encore qui arrivait par la fenêtre ou par le trou de la serrure, au moment juste où tout espoir était perdu. Qui sait, fit encore Échalot. Il me semblait que dans ma pauvre baraque désertée, j'allais entendre encore au dehors une petite main faisant toc-toc à ma porte. Écoutez, cria Échalot qui devint pâle, on a fait toc-toc. La dompteuse se leva toute droite. À la porte extérieure, deux coups discrets avaient été frappés, en effet. Si c'était le bon génie, balbutia Échalot. La dompteuse essaya de sourire, mais elle ne put, et ce fut d'une voix altérée par l'émotion qu'elle prononça ce seul mot. « Entrez !»